48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et voilà un nouveau magazine, le MAG, 48 FM MAG. Donc une deuxième émission sur laquelle nous avons bien sûr trois invités. Le premier invité est Benoît Malaval, donc dans notre rubrique sport, qui nous parlera de sa nouvelle manifestation, enfin, déjà un peu ancienne. Dans la rubrique association, nous accueillons aujourd'hui Marilyn Nouchi, qui nous parlera bien sûr des associations et puis de beaucoup d'autres choses. Et puis ensuite, une rubrique qu'on n'avait pas encore... animé, qui sera la rubrique média avec Guillaume qui nous parlera de certains choix télévisuels. Alors, pour commencer, nous allons d'abord accueillir Benoît Malaval. Benoît Malaval, vous êtes donc vous êtes président de Lozère Sport Organisation qui organise depuis quelques années maintenant le tour cycliste du Gévaudan. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît?
Donc tout à fait, Lozère Sport Organisation organise depuis 7 ans déjà donc, le Tour cycliste du Gévaudan, qui est une épreuve qui est vieille pour la Lozère. Elle a débuté en 1973 et puis bon, il y a eu quelques intermèdes sans organisation.
D'accord. 1973, vous n'étiez pas né, Benoît ?
Non, en 73, je n'ai pas vu le premier vainqueur. Le premier vainqueur, c'est Bernard Bourreau, qui est actuellement sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Et je ne l'ai pas vu gagner. Donc, c'est vrai qu'en 73, je n'ai pas vu donc, cette belle victoire, sûrement. Mais bon, on l'a raconté. Et puis, bon, nous, depuis 2006, on essayait de faire aussi bien que ce qui était, même mieux, on espère, de ce qui était en 1973.
Oui, c'est en tout cas c'est une sacrée épreuve. 39 ans d'histoire, il y a eu pas mal de. On n'a pas eu de grandes vedettes qu'on a connues après sur le Tour de France qui seraient passées autour du Gévaudan.
Bon, après, si, il y a beaucoup de coureurs qui ont participé autour du Gévaudan, qui ont participé après au Tour de France. Hein. Voilà, après, il y a des grands noms comme Laurent Jalabert, voilà, qui a participé dans les années 90, au début des années 90. Et puis tous les meilleurs Français qui étaient amateurs sont passés avant sur le Tour du Gévaudan. Après nous, depuis c'est la quatrième année où l'épreuve est professionnelle, donc on reçoit pas mal de coureurs professionnels. On a reçu voilà Jérôme Coppel qui est sûrement voilà le mieux classé au Tour de France. Il a gagné le Tour du Gévaudan en 2010 et l'année dernière il a fait 13e au Tour de France.
D'accord, donc c'est une belle épreuve qui a initié, comme beaucoup d'épreuves d'ailleurs, des champions ou des futurs champions.
Oui, après c'est initié, c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes qui viennent autour du Gévaudan, et après l'année suivante, ou les années après, qui intègrent les meilleures équipes mondiales. Mais voilà, après on a quand même un plateau d'équipes qui participent au Tour de France. On a l'équipe Cofidis, on a l'équipe SOR. Voilà, c'est des équipes qui sont sur le Tour de France et qui viennent sur le Tour du Gévaudan avec pas mal de coureurs qui étaient sur le Tour de France. On a une trentaine de coureurs qui ont fait le Tour de France cette année qui sont sur le Tour du Gévaudan ensuite. Parce que la saison, ce n'est pas que le Tour de France. Ça débute au mois de janvier, ça finit au mois d'octobre. Et le Tour de France est une étape parmi le calendrier.
D'accord. Et en fait, le Tour du Gévaudan est inscrit sur un calendrier national.
C'est un calendrier international. Donc, c'est un calendrier international de l'Union cycliste internationale. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des équipes japonaises cette année. On a des équipes, on a 10 équipes étrangères qui seront présentes au Tour du Gévaudan.
D'accord. Et au total, c'est combien de participants?
Vu que c'est nous qu'on sélectionne les équipes, et donc on a pris 19 équipes. Après, au niveau de la réglementation, on peut prendre jusqu'à 200 coureurs. Mais bon, nous, financièrement, on peut prendre, sélectionner 114 équipes ou 114 coureurs ou 120 coureurs, suivant les années.
D'accord, c'est une grosse manifestation. C'est considéré comme une grosse manifestation sur le plan national ?
Sur le plan international, c'est vrai qu'il y a un classement européen où voilà, toutes les meilleures équipes européennes sont classées et cherchent à améliorer leur classement. Et vu que nous, c'est quasiment la dernière épreuve du calendrier européen, il y a pas mal d'équipes qui viennent pour améliorer leur classement, parce qu'en ce moment, donc, c'est l'équipe Sort, une équipe française qui est en tête, et la deuxième équipe, c'est l'équipe Cofidis, donc ils seront là sur le Tour du Gévaudan, et voilà, ils ont 2000 et quelques points sur l'ensemble de la saison, et en ce moment-là, ils ont 20-30 points d'écart, et la victoire au Tour du Gévaudan vaut 40 points, donc c'est vrai que c'est important quand même pour ces deux équipes de bien figurer sur le Tour du Gévaudan.
D'accord, et c'est une manifestation qui marque au niveau international et qui est intéressante pour les professionnels. Alors, quand on dit professionnel, en fait, ce sont des gens qui vivent de cette pratique.
Oui, en France, il y en a à peu près 120-130 coureurs professionnels qui sont dans les équipes voilà, les plus connues, voilà, Europcar, Cofidis, SOR, voilà, toutes ces équipes françaises des Jeux. Et donc, ils sont salariés de leur équipe professionnelle et ils vivent du vélo, oui.
D'accord, donc ils sont vraiment des salariés des sociétés qui les emploient, c'est ça, avoir leur pratique et...
ouais, bah, au niveau international, il y a à peu près 1200-1300 coureurs professionnels.
Ah, seulement, hein. Je voyais ça beaucoup plus gros.
Non, après, la France a beaucoup de coureurs parce qu'ils ont 6 ou 7 équipes professionnelles, donc c'est pour ça la France, Belgique, Italie, c'est les gros pourvoyeurs de coureurs cyclistes professionnels.
D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qui amène Benoît Malaval à organiser un événement comme ça ? Vous êtes cycliste, vous ?
Ouais, j'ai fait beaucoup de vélo, j'en fais beaucoup moins parce que c'est vrai que le vélo demande beaucoup de temps. Hein. C'est une pratique sportive intensive parce que pour avoir des résultats, il faut faire minimum 20-25 heures d'entraînement. Et puis, bon, en travaillant, c'est pas évident de faire...
25 heures par semaine ?
25 heures par semaine, voilà, par jour. Par semaine, voilà, 25 heures par semaine. Donc, c'est vrai que c'est contraignant. Donc j'ai fait du vélo, j'ai arrêté le vélo, mais bon, j'ai voulu rester dans l'organisation et près du milieu que j'aime. Donc c'est pour ça que on a relancé il y a 6-7 ans voilà, ce Tour du Gévaudan pour avoir, au début, on était sur un niveau national et puis petit à petit, on a grimpé les échelons, on a accueilli une finale de Coupe de France des clubs et puis après on est monté sur le calendrier international.
D'accord. Bon, ben c'est bien tout ça. Et tout ça, c'est combien de participants ? Combien de bénévoles, pas les coureurs, mais les bénévoles derrière ?
Après, le Tour du Gévaudan, il y a des salariés, bénévoles locaux ouais. qui montent les sites d'arrivée, les sites de départ, qui sont il y a une trentaine, quarantaine de bénévoles lozériens. Après, voilà, il y a des parties un peu plus techniques qui est la sécurité, où on prend des groupements de motards civils qui viennent sur le Tour du Gévaudan. Quasi bénévolement, donc on les défraye sur la partie course, mais après sinon voilà, ils aiment le vélo, mais voilà, ils sont vraiment habitués pour assurer la sécurité des cyclistes à rouler devant le peloton pour fermer les embranchements, faire garer les véhicules, et eux ils sont une vingtaine. Après on peut rajouter tous les pilotes qui sont dans la course, ça fait à peu près 80 personnes bénévoles qui sont pour la sécurité ou pour la mise en place des arrivées, des départs de ce Tour du Gévaudan.
Et sur une période de combien de jours ?
Après, comme la plupart dans les associations, voilà, on leur demande d'être présents sur l'événement ou 2 jours avant l'événement. Mais voilà, après, on est 4-5 personnes à travailler toute l'année pour préparer le Tour du Gévaudan. Mais les bénévoles, là, sont présents ouais, sur l'événement. Et après, ils sont sur d'autres événements. Après, les moteurs sécurité, ils sont tous les week-ends sur des courses de vélo.
D'accord. Alors, on va peut-être revenir maintenant à la présentation du trajet de cette course, avec les dates, avec les moments forts. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos auditeurs ? Qu'est-ce qui serait intéressant déjà sur le trajet ?
Où on peut aller voir la course aussi.
Où on peut aller voir la course, oui, tout à fait.
Donc, là, Donc on va faire une présentation de l'épreuve avec quelques coureurs qui seront présents donc vendredi. Donc après ça c'est la présentation générale et la mise en place. Mais sinon donc les coureurs débuteront leur péripétie lozérienne, enfin lozérienne plus que lozérienne parce qu'on va aussi dans le Gard à Châteauneuf-de-Randon. Donc on a mis en place un beau départ à Châteauneuf-de-Gard-Randon. C'est vrai que sur la place du Guéclin avec un deuxième passage qui s'effectuera 30 km après donc le départ, dans une petite montée juste avant Châteauneuf-de-Randon. C'est vrai que s'il fait beau, ce sera, je pense, le plus beau départ du Tour du Gévaudan qu'on ait eu. Donc, ça sera samedi à partir de 13h30.
Donc, après, samedi prochain,
samedi, oui. Samedi là, qui vient. 22 septembre. Après, donc, ils partiront côté gare, mais bon, ils auront un petit passage aux Ériens avec quand même le col du Goulet, la descente sur Villefort. Après, ils rentreront dans le Gard avec quelques petites côtes.
Donc, le parcours, là, c'est bien sûr la nationale.
Ouais, c'est pas ça. La nationale, c'est la route. On reste sur la route. Ouais. Mais bon, après, on reste sur les voies, la voie donc qui descend. Qui descendent donc entre le Blémard et Villefort. Après, par contre, on rentre sur des petites routes cévenoles, un peu moins larges, avec un peu plus escarpées, pour que les coureurs arrivent à exploiter tous leurs talents. Et puis, bon, le Tour du Gévaudan, c'est une épreuve de grimpeur. Donc, c'est pour ça qu'on a un final assez difficile.
D'accord. Et donc, il faut avoir de grosses cuisses, c'est ça ?
Non, les grosses cuisses, c'est pour les rouleurs. Les grimpeurs, bon, ouais. C'est des petites cuisses.
Ces petites cuisses fines qui moulinent beaucoup.
Voilà, qui moulinent et qui vont très vite.
D'accord. Ouais, et donc on arrive où là ? Parce qu'on est perdu sur les routes cévenoles, donc on arrive dans le Gard.
Après, j'espère que les coureurs ne se perdront pas, mais on arrive dans le Gard, donc à la Grand-Combe. Donc on fait un premier passage à la Grand-Combe, puis après on repart sur d'autres petites routes cévenoles avec la montée du col de Porte, avec le château de Porte qui. Ouais, il fera des jolies photos, des jolies photos. Et puis,
ils auront le temps de prendre des photos.
Les coureurs, non, mais après, on a pas mal de photographes ou même la télé. France 3 sera présent et j'espère qu'ils feront de belles images.
Ah ben, on espère aussi enfin que François puisse venir. C'est pas mal, il devait venir déjà cet été et puis ils ont annulé. Ce qui est dommage pour notre beau pays parce qu'on a eu quand même un été magnifique. Et ben, on espère en tout cas qu'ils seront là pour vous, qu'ils vont pouvoir voilà, bien faire de belles images, qu'on puisse regarder ça à la télévision. Et donc, c'est un parcours qui fait combien de kilomètres au total ?
Bon, la première étape fait 153 kilomètres. Donc après, ils ne vont pas s'arrêter là, hein. Ils vont continuer. Le lendemain, donc, on a une étape Mande-Mande. Mais bon, ils ne font pas que Mande-Mande, ils s'en vont sur les routes. Et donc là, c'est un petit tour de la Lozère avec un passage dans l'Aubrac, avec au Mont-Aubrac. Et puis après, une redescente sur Marvejols, la vallée du Lot. Et après, donc, quand ils reviennent par Bal-Siège, on les fait aller on peut que les faire aller dans les gorges du Tarn. Donc, ils montent le Choisal et ils descendent Ispagnac, les gorges du Tarn, et ils remontent après le col de Montmirat. Et puis après, encore un passage obligé, c'est la montée Jalabert. Donc, cette année, on fait un passage sur la montée Jalabert, la descente dans le Val d'Aunès et l'arrivée de nouveau sur Mande, sur les boulevards.
Ouais, ça fait un sacré parcours.
Sur une étape, il court pendant combien de temps, en fait ?
Bah après, la moyenne donc,
le plus
approximative,
rapide.
C'est entre 38 et 42. Donc, les horaires sont prévus entre 38 et 42 km/h.
D'accord. Donc, ça fait quoi ? Ils partent à quelle heure ?
Donc sur
le samedi, ils partent à quelle heure ?
Le samedi, ils partent à 13h30 ouais. Et le dimanche, ils partent un peu plus tôt, c'est-à-dire vers 11h le départ, parce que c'est vrai que l'arrivée, souvent, on la fait vers 3h30, parce que les coureurs, voilà, vu qu'il y a des coureurs qui viennent d'un peu partout en Europe, ils descendront souvent à Montpellier pour prendre leur avion et rentrer chez eux, donc c'est pour ça qu'on fait arriver assez tôt.
D'accord. Et tout ça, donc, ça nécessite, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre de bénévoles, de professionnels, et peut-être aussi de secouristes, non ?
Au niveau des secours, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux, hein. Parce que bon, après, on touche du bois, mais bon, on n'a pas eu trop depuis 7 ans, on n'a pas eu trop de chutes graves, mais bon, il peut y en avoir. Et donc, après, voilà, donc, dans l'échelon course, voilà, c'est assez. Assez précis, on a un docteur urgentiste qui est à l'hôpital de Mande, le docteur Paul, qui est également docteur sur le Tour de France. C'est vrai qu'un docteur urgentiste, c'est toujours bien. On a 2-3 motards qui sont infirmiers, on a 3 ambulances sur l'échelon course. Donc c'est vrai qu'on pense vraiment à la sécurité de nos coureurs. On les fait venir, mais bon, on veut quand même qu'ils
soient dans
toute la sécurité.
Oui, oui, bah, l'idée c'est ça, c'est que ce ne soit pas marqué par un événement un peu fâcheux. Quoi.
Mais bon, c'est vrai
même s'il y a toujours un risque, de toute façon.
Ça peut arriver, mais bon, c'est vrai que de temps en temps, je vais pas mal sur des courses à l'étranger. Il y a 15 jours, j'étais en Hollande, et je peux vous dire que...
Chez Hollande ou
en... Pas chez Hollande, non, en Hollande,
en
carrément.
Hollande, carrément.
Ouais, carrément en Hollande, et c'est vrai que c'est vraiment plus agréable de faire du vélo en Lozère qu'en Hollande. Chez Hollande, je sais pas.
Je sais pas non plus. Mais c'est bien tout ça. Donc on a parlé sécurité, on a parlé trajet. Donc aussi dire aux gens qu'il ne faut pas rester bien sûr au milieu de la route, hein, et bien être sur le bord. Qu'est-ce qu'on peut donner comme consigne pour éviter des désagréments ou des heurts ou des choses comme ça sur le bord de la route?
Déjà, on peut dire aux gens de sortir et applaudir les coureurs, parce que bon, c'est des coureurs qui ont des palmarès intéressants et certains même des palmarès impressionnants. Donc c'est ça la première chose qu'on peut demander aux gens, hein, de sortir et d'applaudir les coureurs.
De sortir des bois pendant qu'ils sont en train de chercher les champignons pour applaudir les...
des bois quand ils sont en train de chasser ou de leur maison quand ils sont en train de faire le ménage. Voilà, ils peuvent venir vraiment applaudir les coureurs au bord de la route. Ça leur fera plaisir et puis ils verront un beau spectacle.
D'accord. Et donc après, c'est bien de rester au bord de la route, de ne pas traverser quand ils arrivent, de ne pas se positionner face au vélo pour prendre des photos ou des choses comme ça, des choses qu'on voit de temps en temps qui sont un peu...
Ouais, après ça, on le voit sur le Tour de France parce qu'ils ont des millions et des millions de spectateurs. Nous, on en a moins. Hein. On ne compte pas millions, nous. Mais bon.
Oui, mais des fois, il vaut mieux être moins nombreux et bien accompagné, comme on dit, que trop nombreux et...
Oui, c'est vrai qu'en plus, le public qui vient sur le Tour du Gévaudan, c'est un public un peu plus connaisseur. Sur le Tour de France, voilà, c'est un public moins connaisseur, plus familial, plus vacancier. Donc, c'est vrai que le public du Tour du Gévaudan peut-être sera plus sympathique et plus connaisseur que sur le Tour de France.
On ne va pas cracher non plus sur le Tour de France, qui est une superbe épreuve. C'est sûr qu'il y a aussi une grosse médiatisation. En termes de médias, vous êtes bien couverts. Vous avez parlé de France 3. Il y aura peut-être d'autres...
Il y aura 48 FM, bien sûr.
Tout à fait, 48 FM, qui sera présent.
Qui l'évoque aujourd'hui. Hein,
voilà, voilà. Après, il y a France 3 qui couvre chaque année l'événement et qui fait des beaux reportages et des belles images. Bien sûr, la Lozère Nouvelle, à midi libre.
On aura le parcours, le trajet sur la Lozère Nouvelle, oui. Pour que les gens puissent, s'ils l'achètent, avoir le parcours et faire une balade et puis essayer de voir les coureurs pendant le parcours.
Ouais, sur Lozère Nouvelle, même ça a dû arriver dans toutes les boîtes aux lettres de Lozère avec la publicité. Donc hier ça a dû arriver. Donc j'espère que les gens n'ont pas jeté la publicité ou ont jeté peut-être la publicité et gardé la brochure du Tour du Gévaudan.
C'est une bonne annonce. C'est dire aux gens aussi que
regardez dans vos pubs,
voilà, si c'est avec la pub, ne jetez pas tout, hein, gardez l'essentiel, comme sur 48 FM, gardons l'essentiel. Peut-être quelques questions pour terminer avec vous, Benoît. C'est une manifestation aussi qui fait la part belle apparemment aux amateurs.
C'est vrai que bon, l'épreuve est réservée souvent à une élite sportive professionnelle ou à laquelle on mélange quelques coureurs amateurs qui seront des futurs talents. Mais c'est vrai que cette année, on veut associer les cyclistes lozériens. Donc c'est pour ça que le dimanche matin, on fera donc une petite sortie vélo pour eux. Donc on va organiser déjà, donc on va les recevoir. Ils vont déjeuner avec les coureurs et les organisateurs.
Une petite pause dédicace, d'accord.
Et après, ils partiront sur les routes, sur la deuxième boucle, la dernière boucle, c'est-à-dire les gorges du Tarn, pour faire une petite balade. Et après, ils pourront encourager les coureurs du Tour du Gévaudan qui, je pense, arriveront en même temps qu'eux.
D'accord. Il y a beaucoup de coureurs cyclistes amateurs en Lozère.
Vous avez quelques infos. Il y a beaucoup de pratiquants. C'est vrai que le vélo est pratiqué par pas mal de personnes. Donc c'est ces pratiquants du dimanche, au lieu de faire la sortie du dimanche tout seul de leur côté, on leur propose de venir applaudir les coureurs. Et puis bon, après, faire un petit déjeuner sympathique avant de partir sur les routes lozériennes.
D'accord.
Et le temps sera beau ce week-end ou pas? Que dit Météo France?
Ouais, Météo France, j'ai vu donc Eric Gosse il n'y a pas longtemps et il m'a dit qu'il y aurait des prévisions assez favorables pour l'instant. Bon. Mais ça change. Donc.
En tout cas, c'est super qu'Eric puisse encore nous donner quelques infos avant la fermeture de ce magnifique établissement qui a été Météo France et qui nous permettait d'avoir une météo extrêmement précise dans cette zone de montagne. Et franchement, c'est génial que voilà, sur pas mal de manifestations, les gens puissent encore avoir ce genre d'informations. Une dernière question peut-être qui fait un peu des fois grincer des dents, mais qui est le nerf de la guerre, c'est les moyens financiers.
Bon, après les moyens financiers, après c'est comme toutes les manifestations lozériennes, c'est les mêmes partenaires des collectivités territoriales, le conseil général, la région et bien sûr les villes qui nous reçoivent. Et cette année donc C'est comme chaque année, donc la communauté des communes Man de Cœur de Lozère, la Grincombe, le conseil général du Gard. Voilà. Après, c'est vrai que c'est toutes nos collectivités qui nous soutiennent. C'est vrai que le vélo, grâce au Tour de France, aussi a une image sympathique avec les maillots protocolaires. Et là, c'est vrai que nous aussi, on arrive à proposer aux entreprises lozériennes des maillots protocolaires. Et c'est vrai que la plupart de nos partenaires privés qui nous suivent depuis 7 ans, genre Hyperru, qui est le partenaire du meilleur du classement général. Donc le maillot, c'est pas le maillot jaune pour nous, c'est le maillot sang et or. Donc c'est un peu le maillot jaune, c'est le meilleur. Le vainqueur du Tour du Gévaudan portera ce maillot. Et nos partenaires, voilà, nous suivent depuis 7 ans. Kézac, voilà, je ne vais pas les citer tous, mais c'est vrai qu'ils nous suivent. Alors on doit leur apporter quelque chose, une image positive, parce que voilà, sinon ils ne nous suivraient pas.
D'accord. Et donc c'est un budget de combien à peu près ?
À peu près 5 000 euros, environ 5 000 euros.
Très bien. Eh bien, merci Benoît. On vous souhaite une excellente course ce week-end avec beaucoup de monde, une belle médiatisation et de beaux résultats et surtout beaucoup de spectacles parce qu'à 48 FM, on aime ça, le spectacle. Et
maintenant, il y aura du spectacle.
Et on va vous proposer une petite pause de musicale donc avec Cake.
You won't admit you love me, and so how am I ever times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind. Perhaps, 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 perhaps.
Tous les jeudis soirs, à 20h, sur le 94.1 de 48 FM, Venezuelatina. Une heure consacrée à la musique et aux musiciens vénézuéliens. Le premier jeudi du mois, un numéro spécial d'Orinoco nous permettra d'aller à la découverte d'un artiste ou d'une nouvelle production musicale. À jeudi soir, toujours sur le 94.1 de 48 FM ou sur le net 48fm.org. Un conseil, soyez-y.
Voilà, nous voilà de retour sur 48 FM Le Mag avec notre deuxième invitée, donc Marilyn Nouchi.
Bonjour.
Marilyn Nouchi, bonjour. Vous êtes déléguée départementale à la vie associative, donc vous faites partie des services de l'État.
Exactement.
Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, donc en fait, moi je fais partie des multiples délégués départementaux à la vie associative qui sont égrenés sur toute la France. C'était une volonté du gouvernement de pouvoir accompagner au plus près des territoires les associations dans leurs préoccupations, leur dynamisme, etc. Donc on a pour mission principale d'informer, d'accompagner, de former et d'être présent pour faciliter aussi le travail des bénévoles au quotidien dans le fonctionnement et la mise en œuvre de leurs projets associatifs. Concrètement, sur le département, là, depuis 2007 que je suis déléguée départementale à la vie associative, on a eu à cœur, au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont je fais partie, et j'émane du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, on a eu à cœur de développer plusieurs services aux associations, notamment l'accueil individualisé, c'est-à-dire qu'une association qui a une problématique X ou Y et qui a besoin d'un conseil, d'un accompagnement, peut prendre un rendez-vous avec moi de manière assez facile, par téléphone, et puis on se rencontre, et bien que n'ayant pas réponse à tout, je vais aller après chercher les infos auprès d'autres services de l'État ou même d'associations départementales qui ont des compétences avérées dans le fonctionnement associatif et qui m'aident. Et on essaye de faire en sorte en tout cas, j'essaye de faire en sorte de faire un accompagnement qui leur permette de rebondir et de continuer par la suite leurs actions. On met en place aussi des outils, c'est-à-dire qu'il y a un guide pratique de l'association qui est édité tous les 2 ans et qui reprend toutes les questions de manière assez exhaustive qu'on peut se poser. Autant dans l'emploi que dans le fonctionnement, les statuts, la compta, la fiscalité, enfin toutes ces questions-là.
Les financements aussi.
Les financements et la responsabilité, la question de responsabilité aussi. Et il est distribué gratuitement sur le département. Là, je suis en train de réactiver une lettre électronique aussi qui s'appelle Actualité associative, qui va avoir une périodicité tous les 2 mois, je pense, ou tous les mois, je ne sais pas.
Vous appelez une lettre électronique, c'est une newsletter, c'est ça ?
Exactement.
En français dans le texte.
Exactement.
D'accord.
Donc, il sera diffusé via le site internet des services de l'État et par les boîtes mail. Et donc, il va reprendre des infos locales et aussi des infos plus nationales sur l'actualité en matière de politique sur la vie associative.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques données ? Parce que souvent. On se dit, bon, la Lozère, petit département, petite population, est-ce qu'il y a beaucoup d'associations en Lozère ? Et si oui, est-ce que vous avez un chiffre à donner sur actives et non actives ? Parce que c'est vrai qu'on crée des associations, on n'a pas toujours la main dessus, et les associations qui sont en sommeil ne déclarent pas forcément en sommeil.
C'est cela. En fait, moi, je ne travaille pas au sein du greffe des associations, qui est le lieu où les associations vont se déclarer, donc qui comptabilisent les structures qui sont... En tout cas déclaré, je fais le distinguo entre déclaré et actif, hein, comme vous l'avez fait aussi. Mais il y a en gros 5000 associations qui sont déclarées sur le département, et je pense qu'il y en a un gros tiers qui fonctionne de manière continue et active depuis des années. Et après, il y en a certaines qui se créent, d'autres qui se mettent en sommeil. Donc on est voilà, sur un gros tiers sur les 5000 associations sur le département. Et j'ai pas les chiffres avec moi, mais il y a une centaine d'associations, un peu plus, qui se créent par an. Donc après,
ouais,
il faut. Voilà. Donc c'est quand même assez. On a un dynamisme associatif en Lozère qui est vraiment intéressant.
Et vous expliquez comment, ce dynamisme ? Pourquoi un milieu rural plus qu'à la ville ? Vous pensez que c'est une constante qu'en milieu rural, les gens se fédèrent plus parce qu'ils sont isolés, qu'ils ont besoin d'avoir des services ou qu'ils ont besoin de créer comme ça un lien social fort.
Je ne ferai pas trop le distinguo urbain-rural parce qu'il y a aussi des zones, on va dire, un peu vides en milieu très urbain. Donc, et on se rend compte qu'il y a des similitudes avec le très rural et le très urbain. Je dirais plutôt que la nature ayant horreur du vide... Il y a aussi le fait de s'associer, c'est répondre aussi à des besoins qui ne sont pas remplis, à des volontés de faire, etc. Je ne dirais pas que le rural est plus urbain et plus actif que l'urbain, non, je ne pense pas. En tout cas, sur le département, ce qu'on a, on a des spécificités quand même. c'est qu'on on a le plus gros employeur lausérien, ce sont des associations, puisqu'on a une grosse, grosse présence, c'est une, quelque chose qui est un peu atypique ailleurs, mais du médico-social,
qui a fait quand même son
assise depuis des années sur le département. Effectivement, c'est 36% de l'emploi privé, etc., qui est représenté par ce secteur-là. Donc c'est quand même conséquent. On a un mouvement associatif sportif fort. On a pu le voir aussi avec Benoît tout à l'heure, qui mobilise de nombreux bénévoles. Après, c'est vrai, il y a les bénévoles, comme tu le disais tout à l'heure, Benoît, qui sont sur les événements, où là, on en a 80-100 X. Et puis après, il y a les petites mains au quotidien dans l'année, où ils sont plus que 4 et 5, et qui permet aussi de mettre en œuvre des gros événements. Donc,
oui,
et
puis voilà. Il y a tous ceux qui sont sur plein d'associations, qui ne sont aussi pas toujours adhérents, mais qui viennent donner la main, comme vous dites,
complètement,
sur un tas de manifestations, qu'elles soient culturelles, sportives.
Voilà, on a ce distinguo-là. Il y a des gens qui sont prêts à donner du temps, mais sur du ponctuel, et d'autres qui font tourner les machines pendant toute l'année.
Les gros événements, oui.
Voilà. Et donc voilà. Après, c'est vrai que pour finir un petit peu sur ce qui est mis en place aussi sur le département, il y a un programme de formation pour les bénévoles qu'on a mis en place depuis 5 ans. Je dis on parce que là, j'ai mobilisé des têtes de réseaux associatifs départementaux, parce que je ne travaille pas toute seule. Je me suis appuyée aussi sur les compétences du département. Donc, il y a
des organismes comme le GDOS, comme les mouvements d'éducation populaire. Voilà,
comme la Maison de l'Emploi, ouais, et de la cohésion sociale, comme les foyers ruraux. Et la DASEN croisée, voilà. C'était un peu aussi pour prendre
des associations
diversifiées, quoi, sur différents secteurs.
Sur différents secteurs aussi.
Exactement. Voilà, qui peuvent apporter. Voilà. Donc
ces formations, en fait, elles s'adressent à qui et pourquoi elles ont été mises en place?
Alors, quand je dis délégué départemental à vie associative, on se dit c'est uniquement pour les bénévoles et les adhérents. Mais il faut aussi penser à ceux qui ont envie de devenir bénévoles ou envie de créer des assos. Et ceux-là aussi peuvent venir m'en rencontrer. C'est-à-dire, si on a une idée, un projet et qu'on veut venir, on peut aussi. Et le programme de formation, les outils et l'accompagnement, il est aussi pour ces personnes qui sont en passe de créer des assos. Et donc, le programme de formation sur le département, bon, déjà, il est calqué sur l'année scolaire. Parce que c'est
donc, plus, c'est une saison, en fait. C'est de septembre, cohérent, voilà. C'est ça?
Là, c'est du 1er octobre à fin mars. Voilà.
D'accord.
Le dernier module se finit le 16 mars. Et on a essayé de balayer un petit peu toutes les préoccupations et des petites assos, parce que les grosses, elles ont derrière un staff qui leur permet d'avoir des réponses, des comptables, etc. Et d'être cohérent aussi avec la vie de l'association. C'est-à-dire que là, en octobre, on va attaquer sur les ressources de l'asso. C'est quand même le nerf de la guerre. C'est comment ça se travaille.
D'accord. Donc en fait, si on résume, ça s'adresse à des gens qui sont déjà dans des associations, qui sont soit dirigeants, soit bénévoles,
ouais,
ou ceux qui ne sont pas encore des associations, mais qui sont intéressés pour en créer une.
Voilà.
Et c'est créé sous la forme de modules.
C'est des thématiques. On n'est pas obligé de s'inscrire, d'accord, à tout. On va piocher en fonction de ce dont on a besoin pour être plus à l'aise et plus serein
Avec quelle fréquence?
Il y a
combien de modules ou de thèmes sur cette année, là, à peu près?
Il y en a 7 qui sont répartis. Il y en a en octobre, il y en a 2, en novembre 1, en janvier 2, février et mars. Et là, ce qu'on a fait, c'est effectivement, comme je vous le disais, on a respecté un peu le calendrier des assos, c'est-à-dire en octobre, au moment où on constitue les dossiers de demande de subvention, bon, on a mis un module là-dessus, évidemment, pour être au plus près des préoccupations. Et après, on balaye des thématiques qui sont variées, hein, comme la communication au service du projet associatif, le fonctionnement associatif. Là, c'est un peu le numéro un de ce qu'on pourrait faire quand on a besoin de comprendre comment fonctionne une asso, c'est d'où ça vient, l'histoire, hein, la loi. Les statuts, le contrat entre les membres.
Loi 1901.
La loi 1901, monsieur Valdecrousseau.
On confond souvent avec la loi 1905.
C'est pas la même.
C'est pas la même.
et le budget, le béaba d'un budget, hein, ça c'est Jean-Paul Sanchez du GDOS qui s'y colle parce que c'est mon référent comptabilité, c'est pas trop mon truc. Et après, la responsabilité aussi, une thématique qui qui mobilise pas mal et qui inquiète les bénévoles associatifs et notamment ceux qui veulent prendre des responsabilités au sein du bureau, c'est la notion de responsabilité civile et pénale des dirigeants. Et en fait, le but quand même de ce programme de formation des bénévoles, c'est de démystifier aussi et de sortir un peu des lieux communs qu'on peut avoir quand on parle de responsabilité. Et donc, on fait venir un juriste, hein, Jérôme Chapeau, qui travaille pour Alvéa Formation à Montpellier. C'est un petit coup de... Et donc, lui, il vient, parce qu'on fait des modules différents, donc il vient un samedi sur 4 heures. C'est vrai que j'ai oublié de dire, c'est gratuit. C'est les lundis en soirée, c'est les samedis matin, parce que les bénévoles ne sont pas tous retraités, il y a des actifs.
Beaucoup sont salariés.
Donc, il faut pouvoir aussi être dans les créneaux où ils sont disponibles. Et il vient sur 4 heures et il balaye tout ça et il démystifie un petit peu aussi la prise de responsabilité. Voilà. Parce que c'est vrai que si on fait venir, ce qui avait été le cas une année, une compagnie d'assurance sur cette notion-là, à la fin de la session de formation, tout le monde démissionne, quoi. Voilà, en gros. Et on finit en mars sur l'organisation de spectacles, en lien avec l'intervention des foyers ruraux et des scènes croisées, comment on accueille un artiste, comment on aménage un lieu.
Donc c'est des thématiques qui sont soit assez généralistes, soit des fois
de temps en temps
un peu plus spécialisées, pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et que ça s'adresse à un plus grand nombre. Vous nous aviez dit que ça fait quelques années maintenant parce que cette formation existe. Vous avez,
c'est la sixième année. Ouais.
C'est la sixième année et ça touche combien de personnes à peu près ?
En moyenne, alors au tout début où on l'avait mis en place, on avait eu une grosse fréquentation. Après, il n'y a pas un turnover si important que ça des fois dans la prise de responsabilité. Donc là, on est en moyenne, on a une vingtaine de personnes, 15-20 personnes voilà, par soirée.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire si M. Benoît Malaval suit ces formations?
Alors, il les suit pas, il les anime avec moi des fois,
en
sur
plus,
certaines
en
thématiques.
En plus, c'est un animateur.
Oh, il est multifacette.
Voilà. Multipass.
Il n'y a pas que le vélo, il y a tout le sport, pas que le vélo, toutes les associations. Et au niveau du comité départemental olympique et sportif, on est aussi centre de ressources pour les bénévoles. Donc, on reçoit tout le monde à la maison des sports.
D'accord, parce qu'on a oublié de dire que Benoît Malaval travaille au GDOS.
Ça y est, c'est dit.
C'est dit.
Il est reconnu.
Très bien. Donc, ce programme démarre, vous nous l'avez dit,
le 1er octobre.
Le 1er octobre, avec un premier module plus spécialisé sur la partie
ressources. Et santé financière. Ouais.
Très bien. Alors, moi, par exemple, j'ai une petite question à vous poser. Je suis jeune, j'ai 23 ans, j'ai les yeux bleus, je fais 1m90. Ça n'a rien à voir du tout avec ma question. C'est juste pour que nos auditrices s'imaginent qui parle dans ce micro.
Le micro, ouais.
Et donc,
je confirme.
Retrouvez les photos sur Facebook. Hein,
tout à fait, oui. Et donc, voilà, je suis passionné.
C'est très perturbant d'ailleurs.
Je suis passionné par la chasse aux escargots. Et j'aimerais monter une asso parce qu'on est, on est plusieurs copains avec qui on aimerait faire ça. Comment je m'y prends finalement?
Pour monter une asso, c'est assez simple et c'est voulu aussi, c'était la volonté de cette loi 1901, hein, c'était que ce soit facile et ça l'est toujours. Mais il y a quand même quelques petits conseils pour qu'après, quand on fonctionne au quotidien, ça soit pas, c'est-à-dire des maladresses de départ ne soient pas parasitantes dans la mise en œuvre du projet associatif. Mais concrètement, vous vous mettez autour d'une table pour vous demander ce que vous faites, quel objet, pourquoi vous êtes... Donc vous rédigez un objet, vous trouvez bien sûr un nom à l'association, 48FM par exemple, qui est une association, et une adresse, c'est-à-dire le lieu du siège social. Et simplement avec ces trois...
Ces trois éléments,
vous pouvez créer votre association. Vous pouvez la créer. Alors jusqu'à présent, on pouvait envoyer tous les papiers, c'est-à-dire les statuts qui est dans l'association, puisqu'il faut des représentants de l'association. Il y a un certain nombre de papiers à envoyer à la sous-préfecture, parce que maintenant tout est regroupé au sein de la sous-préfecture de Florac pour déclarer les associations. Ça ne se fait plus amende, mais il y a une possibilité de le faire via Internet. C'est-à-dire que maintenant, il y a l'e-création.
D'ailleurs, on va sur la dématérialisation, c'est énorme ce que l'État fait aujourd'hui.
Extra, hein. Enfin, j'ai pas essayé moi, hein, mais.
Je crois qu'on a fait la modification du bureau de 48FM sur l'application en ligne. Donc,
Guillaume,
donc ça marche.
Guillaume nous confirme que ça marche.
Ça nous occupe.
Mais on mettra, je pense que ce sera possible, on mettra les liens sur le site internet pour que les auditeurs, s'ils ont envie d'aller farfouiller un petit peu sur comment on fait.
D'accord, mais voilà. Ce que je vous ai pas dit, en fait, c'est que dans mon asso, le fils de O. James Audubon Wilson de la pétardière Frondouillou, en fait, veut en faire partie, mais il a que 17 ans. C'est possible, ça ?
Bien sûr. Après, c'est comment on va rédiger et comment on va s'organiser dans l'association. Si on dit dans l'association, on prend que des majeurs, je ne répéterai pas le nom, je ne me rappelle plus. Il ne pourra pas rentrer, voilà. Hein. James ne pourra pas rentrer, mais par contre, on peut créer... Alors, il y a deux possibilités si on est mineur. On peut créer une junior association, ce qui est intéressant dans le sens où on peut être accompagné dans la mise en œuvre de l'asso au quotidien par des gens un petit peu plus âgés et qui ont une expérience associative. Et la Fédération des œuvres laïques, Ligue de l'enseignement et, entre guillemets, tuteur pour les juniors associations. Donc, ils vous aident à rédiger les statuts, etc. Et en même temps, à faire vivre l'asso. Mais il y a aussi maintenant, depuis peu, la possibilité, si on a 16 ans révolus, de créer son asso loi 1901, comme n'importe quel majeur.
Parce que vous parliez de responsabilité civile à un mineur à 16 ans. Comment il fait pour gérer un compte, pour s'engager, parce qu'il y a quand même derrière une espèce de tutorat qu'il faut mettre en œuvre.
Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu redondant avec le junior association que moi je conseillerais, hein, parce que derrière vous avez la folle qui prend en charge l'ouverture du compte et qui va vous accompagner sur les assurances, etc. Et je pense que ce parrainage-là est...
Pour démarrer,
pour moi, je pense qu'il est un peu incontournable. Et en plus, on apprend avec les aînés, donc ça c'est... C'est précieux, quoi.
Est-ce qu'il y a des obligations dans le cadre du fonctionnement d'une association ? Par exemple, tenir des registres, tenir une comptabilité, faire des réunions régulières durant l'année. Est-ce que tout ça, c'est obligatoire ?
Tout ça, c'est régi. En fait, il n'y a pas beaucoup d'obligations dans une association. C'est les personnes qui créent l'association qui se créent eux-mêmes leurs obligations par le biais des statuts qu'ils rédigent, qui est le contrat qui lie les membres. Quand vous adhérez à une association, c'est comme si vous co-signiez le contrat, c'est-à-dire les statuts, et vous adhérez à ce contrat-là qui sont les obligations et votre table de loi. Il n'y a pas un code des associations, on peut faire ça ou pas, on se reporte toujours au statut. Donc c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir et de comprendre comment on va fonctionner à l'intérieur. Mais si on veut ne faire qu'une réunion tous les 3 ans, on peut faire une réunion tous les 3 ans. Si on veut ne pas tenir de compta, on ne tient pas de compta. Par contre, j'y mets un gros bémol. C'est que, d'ailleurs, on n'est même pas obligé de se déclarer à la sous-préfecture de Florac si on n'a pas besoin d'avoir un compte en banque, etc. La liberté de s'associer, la loi 1901, c'est ça.
Tout à fait, c'est parti de ça. Hein,
voilà.
La
liberté de s'associer, parce qu'au départ, c'était, on pouvait être emprisonné si on était...
Tout à fait, sous Louis XVI, lui et Louis-Philippe.
Voilà. C'était reconnu comme des contre-pouvoirs subversifs qui pouvaient mettre en cause...
À partir de 3, on était considéré comme un groupuscule.
Tout à fait. Et à partir de plus de 2 réunions, ça commençait à être gênant pour certains. Donc, il y avait des interdictions de s'associer, en fait. Et il y a eu des ligues, des guildes. Après, il y a eu diverses formes, des sociétés, ce qu'on appelait les sociétés secrètes. C'était ça. Hein, c'était les associations qui ne portaient pas le nom et puis qui se cachaient pour pouvoir se regrouper selon des préoccupations.
Alors, peut-être nous dire que quand même, l'association de la 1901, elle est à but non lucratif. Ça veut dire quoi, finalement ?
Alors, l'association de la 1901, je vais pas faire beaucoup de textes juridiques, mais le premier article de la loi, il est quand même important. C'est une convention, donc c'était le contrat dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est une convention par laquelle 2 ou plusieurs, parce qu'on ne peut pas s'associer tout seul, c'est un peu embêtant, qui mettent en commun...
Sauf si on est un peu schizo et...
On ne peut pas, en tout cas.
Ah bon hein.
D'une façon permanente, c'est-à-dire que ça peut être à durée illimitée, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres périodes de l'histoire, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Et ça, cette notion de autre que de partager des bénéfices, ça ne veut pas dire qu'une asso ne peut pas faire de bénéfices, parce qu'une asso, à l'heure actuelle, si elle veut pouvoir mettre en œuvre son projet, même sans avoir forcément des salariés, il faut bien entendu qu'elle ait des ressources financières et donc qu'elle fasse des bénéfices. Mais c'est la notion de partage qui est différente d'avec une société au sens où on l'entend, une société, des gens se mettent ensemble pour au contraire partager entre les bénéfices de la structure et en avoir des gains. L'asso, c'est l'inverse. On peut faire des bénéfices, mais on ne les partage pas entre nous. Voilà, tout revient dans l'association et au profit de l'objet.
48 FM, tu ne pourras pas partager les gains.
Oui, bon, on va essayer de ne pas partager les pertes.
Aussi. Voilà, c'est, en fait, il ne faut pas confondre l'activité du groupement de l'asso qui peut être lucrative avec le but des membres qui doit être désintéressé.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Marilyn. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est le... Oui, Guillaume.
Non, je voulais juste dire que, effectivement, après avoir parlé des associations, c'était le moment ou jamais de rappeler que, effectivement, 48 FM est une radio associative et qu'on peut y adhérer. Donc, le bulletin d'adhésion est sur notre site internet. Vous pouvez aussi vous venir justement dans nos locaux de la place au blé pour adhérer. Donc, n'hésitez pas.
Tout à fait, parce qu'on a toujours besoin de personnes ressources qui viennent à la fois participer à l'association. Soit en contribuant par des interventions, soit simplement en vidant les poubelles, faisant le café pour le technicien. Mmh. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Puis même une radio, c'est quand même un outil très intéressant. C'est un outil de développement local très, très intéressant. Et puis,
de
lien social. Voilà, cette radio, elle appartient un petit peu à tout le monde. On va continuer avec peut-être une petite pause musicale. Une petite pause musicale avec Alex Toucourt.
Situation could be much better, much better than today. You know that you could do much better, much better than you do today. But how come you never try to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? Don't you know it can never be too late for us to succeed?
Like you know everything and what they say just can't be right. How come you never change? How come you always fail in everything you did before back then until today? Help is coming. As long as you believe. Help is coming. For us to be relieved.
FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
On n'a pas reconnu Alex tout court là.
Ouais, je suis désolé, mais Chewbacca 2 là, qui est derrière la vitrine, là, c'est complètement gouré quoi. Il m'a dit que c'était Ayo. Enfin, vous l'avez tous reconnu avec cette voix suave, ces concerts fabuleux. Eh bien voilà, cette transition simplement pour accueillir Guillaume. Guillaume qui est animateur aussi là, sur cette radio, vous entendez souvent cette charmante voix, et qui va nous parler aujourd'hui de la rubrique médias avec les nouvelles rentrées et puis les choses aussi qui s'arrêtent. Tu vas nous parler un petit peu de
mais
tout ça.
Oui, je vais vous parler un peu de la rentrée télé. Et cette rentrée télé, elle se fait avec 4 personnes en moins cette année, hein, puisque Thierry Roland est décédé pendant le mois de juillet, un grand commentateur du sport et du foot notamment.
Grande figure sportive.
À la télévision. Bon, bien sûr, Jean-Luc Delarue en août. Et puis là, ces derniers jours, Pierre Mondy, donc, mais qui a tué la 7e compagnie, hein, que vous avez pu revoir dimanche soir. Et bien entendu, le personnage aussi très récurrent de Cordier, juge et flic, qui, voilà, donc ça, c'est terminé. Et puis, il y a une personne qui est beaucoup plus méconnue, mais qui est décédée aussi il n'y a pas très longtemps. C'est Jacques-Antoine, qui a été un concepteur de génie de jeux télévisés. La tête et les jambes, le Schmilblick, la chasse au trésor, les jeux de 20h, Fort Boyard, l'Académie des Neufs, Tournée Manège, et il y en a encore plein d'autres, donc c'est aussi une figure de la télé qui s'est...
Tout à fait, tous ces gens qui ont fait la télé, ouais, qui ont donné aussi leur lettre de noblesse. Bon, après on taira ceux qui ont fait des émissions de mais qu'ils vont être donc maintenant, à part ces suppressions, quels vont être les nouvelles émissions.
La rentrée, bah, évidemment, c'est les séries qui reviennent. Alors, il y a Mentaliste qui est revenu depuis quelques semaines sur TF1, Castle aussi sur France 2. Et puis, alors, M6 nous gave de séries américaines aussi ces fins de semaine, avec Bones le jeudi soir, NCIS le vendredi soir. Et
comment
FBI.
Tu dis là, Bones?
Bones.
C'est Bones. Quoi, c'est...
Ah, c'est une enquêtrice qui...
Ah, c'est cette fameuse enquêtrice canon avec les yeux bleus, là.
Je ne sais pas si elle a les yeux bleus, mais enfin voilà, c'est Tempérance Brennan qui est
moi,
anthropologue.
J'ai la télé en couleur, hein, quand même.
Ah, ouais, moi, ça passe pas très très bien, la couleur. Et puis j'ai un écran petit, donc vu que je suis un peu loin sur mon canapé, je ne vois pas forcément très bien. Voilà, donc Bones, c'est Tempérance Brennan, l'anthropologue qui mène des enquêtes à côté du FBI avec une équipe scientifique, donc ça c'est effectivement le jeudi soir sur M6. Et puis FBI Duo très spécial aussi, donc là ça c'est le samedi soir, et où là c'est un voyou, un voleur qui finalement travaille aussi avec la police. Donc voilà, ça c'est les séries américaines de M6 qui sont assez originales, mais qui ça nous en ferait quand même 3 soirs de suite, donc c'est quand même un petit peu beaucoup. Mais ce qui est particulier sur les séries cette année, c'est qu'il y a deux des plus grandes séries, les deux séries les plus suivies, qui s'arrêtent. Et c'est la dernière saison cette année pour deux séries. C'est Dr House sur
TF1. Dr House.
Et Desperate Housewives sur M6 qui connaissent leur dernière saison cette année. Donc ça, c'est quand même...
Il écrit aussi, hein, Dr House. J'ai lu un bouquin de lui.
Oui, il écrit, il chante. Voilà,
Marilyn, elle fait des gros yeux. Depuis que tu parles tout à l'heure, elle fait des gros yeux. Mais quoi, il cause Mentaliste, Bones.
Elle est des Desperate Housewives de Marilyn.
Voilà. Après, il y aura des nouveautés aussi en série avec Canal Plus qui lancera Homeland. Une série qui est.
C'est la petite maison de la prairie. Hein. Si on traduit, ça veut dire ça. Homeland.
A priori, ça devrait être un petit peu plus punchy puisque c'est les créateurs de la série 24 heures qui
ils ont tout relooké quoi.
Qui créent cette série. Et puis il y aura aussi
ils ont changé les roues de la charrette.
Et puis il y aura aussi Terra Nova, une série de science-fiction produite par Steven Spielberg avec un budget assez pharaonique.
Donc, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Dans le concept, c'est pas mal.
Voilà, donc plein de choses.
C'est quoi le concept en fait ?
Le concept en fait, c'est qu'ils ont inventé la machine à remonter le temps et donc ils reviennent parce que la Terre est complètement bouffée, bousillée avec le gaz de schiste. Enfin non, j'exagère. Mais globalement, on peut plus respirer sur Terre, donc ils renvoient en fait des familles à la genèse, donc au moment des animaux préhistoriques, des dinosaures sur la Terre. Et ils reconstruisent en fait une société. Donc c'est un début, un redémarrage avec toutes les problèmes. Et donc en fait, comme ils peuvent pas, ils peuvent revenir en arrière, mais ils peuvent pas repartir.
Revenir en avant.
Et donc ils se retrouvent coincés dans cet univers avec bien sûr tout ce qui existe dans nos sociétés, c'est-à-dire la corruption. Donc en fait, on a déplacé le problème, mais 100 millions d'années en avant, et on retrouve les mêmes écarts d'une société qui essaie quand même de conserver ce qu'il y a de bon et de supprimer ce qu'il y a de mauvais, quoi. Mais le concept est très intéressant. Après, ce que j'ai vu moi sur les jeux d'acteurs, il y a quand même une belle fourchette, une belle panoplie. Je pense que c'est une mission qui va pouvoir faire de l'audimat, comme on dit.
Voilà. Bon, ça sera à découvrir un petit peu plus tard dans l'année. Voilà.
Très bien, Guillaume.
Du côté des infos maintenant, parce que c'est quand même aussi important. L'été a été favorable à France 2 avec les Jeux Olympiques qui ont dopé l'info sur le service public.
Ouais, dopé pour des Jeux Olympiques, excuse-moi.
C'est pas le mot.
Mais l'image est mal choisie.
Et donc, bah, quand même, il y a eu un événement qui n'était pas arrivé depuis un moment. C'est le France 2 qui a réussi, avec Julien Bugier aux commandes, qui a réussi à dépasser TF1 une soirée pendant cet été. Donc,
moi, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens regardaient plus TF1 que franchement.
Antenne 2, ça fait quand même près 20 ans que c'est fini. Hein. Maintenant, c'est France 2. Mais bon, je dis ça.
Tu fais Terra Nova toi aussi.
Je suis revenu avec Terra Nova, je suis plutôt où je suis.
Voilà, et donc TF1 réplique à cette perte de leadership, et donc il réplique avec une action formidable. Le présentateur se lève au milieu du journal pour annoncer les sujets qui vont suivre, ce que faisait France 2 sans se lever, certes, mais depuis quelques années maintenant. Voilà.
S'il pouvait se lever et se casser, ce serait aussi bien.
Non, bon. Pas de commentaires désobligeants sur nos futurs partenaires qui sont voilà. TF1 et France 2.
Après, du côté des chaînes d'info, iTélé revoit complètement sa grille avec un petit peu moins de sport, parce que vous savez qu'on critiquait souvent iTélé pour des longues séquences de sport, et donc maintenant le sport est plus intégré à l'info, ce qui donnera sans doute un petit peu plus de rythme à cette chaîne d'info, qui elle aussi essaye de rattraper BFM, qui est très clairement leader
BFM
des chaînes
TV,
d'info.
La première chaîne d'information nationale.
Voilà, on voit qu'il y en a qui la regardent. Voilà, après, toujours en restant dans les sujets des infos, il y a la météo.
Ah, ça c'est important la météo.
Voilà, donc là vous retrouvez professeur Frog hein, qui a animé les météos de cet été sur 48 FM.
Vous êtes connu, cette voix. Vas-y, tu peux pas nous faire un petit morceau là, Fredo?
Tu peux pas.
Vas-y.
Le docteur Frog est ravi que la météo revienne en force.
Voilà, et donc il y a de gros changements chez France 2, puisque Laurent Romeschko est parti sur France 3 pour faire une émission spécifique sur la météo tous les jours à 13h. C'est donc Philippe Verdier qui vient de BFM qui reprend en main le service météo de la 2. Mais c'est surtout un nouveau décor avec une mise en situation, avec le temps qui change derrière, en fond de décor selon les jours. Enfin voilà. Mais la cartographie, qui est toujours le sujet de grands débats pour la météo, reste inchangée. Donc il n'y a pas de problème, tout va bien.
Guillaume, j'ai un mini scoop. Miss Ranafil est disponible. Hein, sur n'hésitez pas, si vous voulez faire appel à elle, elle reste total dispo.
Okay. D'accord. Et alors, les grosses déceptions de cette rentrée ?
Alors, la grosse, grosse déception de cette rentrée, c'est vraiment très triste.
On est suspendu à tes lèvres, Guillaume. Ouais.
C'est la non-diffusion, pour cause d'économie budgétaire sur France 2, du mariage du prince Guillaume de Nassau, grand duc héritier de Luxembourg, avec la comtesse belge Stéphanie Delannoy. Et donc, voilà, c'est
Stéphanie Delannoy.
Delannoy, oui.
Ah, d'accord. En trois mots, quoi, Lannoy.
Oui, non, de Lannoy.
D'accord.
Voilà, et donc, ce mariage princier fait les frais, enfin, qui coûtait pas si cher que ça finalement, que 200 millions moi, que... passe à la trappe.
Enfin, moi, ce que je regrette, c'est quand même la voix de Léon Zitrone à l'époque. Là, je suis reparti hein, comme Terra Nova, pas en arrière, c'est mais clair. Léon Zitrone qui commentait, mesdames et messieurs, bonsoir. Ça, c'était quand même un sacré moment d'histoire, quoi.
Après, en deux mots sur les divertissements, Jérémy Michalak remplace Laurent Ruquier dans La Quotidienne, on ne demande qu'à en rire. Audrey Pulvar est remplacée par Émeric Caron dans le talk show toujours de Laurent Ruquier, On n'est pas couché le samedi soir. Et il y a eu le grand retour ce week-end de Jonathan Lambert imitant justement Audrey Pulvar. C'est à voir sur YouTube et Dailymotion. Il y a plein de changements dans ces talks finalement des chroniqueurs, puisque le Grand Journal a une nouvelle formule avec Daphné Burki qui remplace Ariane Massenet qui est partie à la matinale. Stéphane Guillon est remplacé par Gaspard Proust dans Salut les Terriens sur Canal+. Gaspard Proust,
qu'on a vu aussi en Avignon dans son très très bon spectacle, extrêmement caustique. Voilà. C'est une figure, je pense, intéressante, s'il garde en tout cas le même type de personnage.
Voilà, donc toujours dans les talks, Alexandra Sublet qui a repris les commandes de 7 à vous sur France 5 après l'avoir laissé pendant sa grossesse. Et puis, deux petites nouveautés sur France 2, c'était hier tout juste. C'est d'abord le nouveau jeu proposé par Nagui. Ça n'a pas super bien marché au niveau des audiences. Mais donc ça s'appelle Volte-Face et c'est un mélange entre alliance et confrontation entre deux candidats. C'est une création française, donc il va falloir voir ce que ça donne. Mais après l'échec du retour de Que le meilleur gagne à la fin de la saison, France 2 se pose des questions sur son access, puisqu'on appelle ça comme ça. Et donc pour dynamiser tout ça, ils ont essayé aussi un programme court avec Anne Roumanoff et les garçons. Ça a commencé aussi hier, c'est un petit peu poussif, donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne dans les semaines qui viennent.
Donc là, on était surtout sur variété, divertissement, et sur les gens qui sont des couches tard et qui aiment bien regarder les émissions un peu plus intellectuelles. Qu'est-ce que tu nous proposes, Guillaume ?
Alors ça, les émissions intellectuelles, c'est pas mon fort, hein, donc je n'ai pas travaillé cette série. Il y a une nouvelle émission en deuxième partie de soirée, tous les 15 jours, le vendredi, animée par Bruce Toussaint, qui est là aussi un talk un petit peu différent. Donc il va falloir aussi voir un peu ce que ça donne. Il faut que ça se mette en place
rapidement.
Et puis après, toujours les. Mais c'était pas très terrible dans la première édition. Toujours les 10 mots
de minuit.
Voilà, les mots de minuit, un certain nombre de programmes qui continuent, bien sûr, sur les chaînes. Voilà.
Super programme, merci.
J'ai quand même un dernier truc, allez, juste la petite blague d'hier, pour rester dans la polémique aussi que ça a généré. C'est quelqu'un qui, lui, ne change pas et qui reste toujours, c'est Michel Drucker. C'est 70 ans seulement dimanche, avec des cadeaux, notamment des humoristes qui sont avec lui, une pompe à pénis et un déambulateur. Donc, voilà, c'est pour marquer son âge, mais ça fait, pour un dimanche après-midi sur France 2, ça c'est quand même un petit peu inédit. Et puis, à noter aussi que dans cette émission, Claude Sérillon et Jean-Pierre Coff quittent le canapé rouge de Vivement dimanche prochain. Donc, qui va les remplacer, c'est une grande question.
Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces informations. Peut-être demander à nos invités, Benoît et à Marilyn, ce qu'ils regardent à la télévision.
Moi, déjà, le programme, ça va me conforter et continuer à écouter la radio.
Moi, en ce moment, j'écoute pas trop la télé. Je viens d'avoir un petit garçon qui m'empêche un peu d'écouter la télé. Et puis, en plus, je vais ce week-end pas avoir le temps d'écouter la télé. Je vais organiser le Tour du Gévaudan. Regardez France 3 parce qu'ils vont passer de belles images du Tour du Jourdain.
Tout à fait. Donc, si vous en avez marre de la télé, n'hésitez pas à écouter l'essentiel, écouter 48 FM ou aussi aller au spectacle vivant ou sur les routes pour voir de très belles courses. En tout cas, on vous remercie pour cette émission. On vous donne rendez-vous à mardi prochain, 12h30, pour un nouveau mag. Merci à tous.
Et rediffusion de ce magazine à 18h11 jeudi.
Tous les jeudis.